Abraham est l'être d'Israël en cours d'histoire. La société d'Israël, la matrice de cet engendrement, c'est Sarah. Et par conséquent, le refus des patriarches vient d'une motivation que j'appellerais nationaliste. C'est-à-dire qu'ils préfèrent leur société à une quelconque société étrangère qui serait la matrice de cette histoire. Est-ce que c'est clair? Non. C'est-à-dire, si Timna avait demandé à être, disons, la concubine d'Abraham, eh bien, il aurait peut-être accepté. On ne sait pas. Mais la femme d'Abraham, ça veut dire à la place de Sarah. Et ça veut dire que la société d'Israël viendrait de Timna et non pas de Sarah. Vous voyez, c'est à ce niveau-là qu'il y a eu le refus. Est-ce que c'est clair? Bon. Et le fait que la Gemara revient dans cette Haggadah, ça se passe au temps d'Abraham, ça se passe au temps d'Isaac, ça se passe au temps de Jacob, indique que c'est un thème d'identité permanent. Il y a ce dévoile que, précisément dans l'identité des goïms, qui est la plus à sauver, donc qui est la plus éloignée de l'identité d'Israël, d'un certain point de vue, se dévoile un désir d'être cet Israël. Tout de suite, dès le début, se dévoile qu'il y a une clause de ce qu'on appelle en hébreu l'olishma, non désintéressé, à condition que je sois la reine. Et là, les patriarches refusent. Or, la Gemara, en citant cette histoire, et c'est là que je voulais arriver, pose la question, est-ce qu'ils ont eu tort ou est-ce qu'ils ont eu raison? Et la Gemara répond, ils ont eu tort. Et on va s'étonner ensuite sur l'étonnement de la Gemara. Okay? Ils ont eu tort puisque de Timna est sorti Amalek. Et comment? Ah, vous avez vu où ça arrive. Okay? Comment? Alors la Gemara explique, tout cela on l'apprend de Pilegesh le Eliphaz. Le texte aurait dû porter Haïta Pilgeshet Eliphaz, la concubine de Eliphaz. Mais le fait que le texte porte elle est devenue concubine pour Eliphaz, Pilegesh le Eliphaz. Là, il y a une base à la dracha de la Gemara ici, qui est le raisonnement suivant. Timna porte ce désir d'être Israël, mais comme reine. Et finalement, elle est refusée. Alors elle dit, je préfère être concubine dans quelques branches de cette famille et pas être reine chez les Chorites où je suis né. Oui, à quel niveau la Gemara met cette exigence, qui va devenir revendication, mais qui est quête du salut. On entend dire qu'il y a Abraham, eh bien j'en suis, mais à ce niveau-là. Isaac, et puis voilà, non, c'est pas possible. Alors même concubine chez un descendant d'Abraham, qui sera Eliphaz, fils de Ésaü, et pas reine chez les Chorites. Vous voyez tout ce que la Gemara met en évidence sur le détail de forme des expressions. Alors je vous lis d'abord la Gemara, ensuite on va discuter sur ce qu'elle enseigne. Ça va, vous avez bien les données en présence? Mais Timna Raïta Pilegesh l'Eliphaz. À propos de cette expression du verset, et Timna a été concubine pour Eliphaz, la Gemara demande, les Maïnaf Kaminé, c'est pour nous apprendre quoi? C'est pour nous faire comprendre quoi? Vous avez noté la référence, Sanhedrin 99b. Timna bat melachim aïta. C'est pour se rappeler que Timna était fille de roi. Dirtiv, puisqu'il est écrit au verset 22, Alouf lotam Timna. Vechol alouf malchuta blitaga. Et chaque fois qu'on dit de quelqu'un qu'il est alouf, ça veut dire roi sans couronne. Donc elle est fille de roi. Baret l'itgayer. Elle a voulu se convertir. Bat etzel Abraham Israël Yaakov et l'okibloua. Alors elle est venue chez Abraham, Isaac, Jacob, ils ne l'ont pas accepté. Halcha ve'aita pilegesh l'Eliphaz ben Esav. Alors elle est allée devenir la concubine de Eliphaz, fille de Esav, Amra, en disant Mutav liot shifra leumazu. Il vaut mieux être une servante dans ce peuple, velo gvira leuma acheret, et pas une dame dans un autre peuple. Les sof nafik mimena Amalek. Et en fin de compte, est sorti d'elle Amalek. Maïtarma, et pour quelle raison? De là-bas, elle est où les Haka? C'est, dit la Gemara, et pour quelle raison est sorti Amalek? C'est parce que les patriarches ne devaient pas la repousser. La repousser, et ça m'amène d'ailleurs à vous expliquer le nom de Timna, comme ça vous verrez bien qu'il y a ici un thème d'identité important. Timna, ça veut dire la repousser, tout simplement. La racine, vous connaissez la racine?
Ignora.
Bon. Alors, il y a deux points qu'il faut comprendre. D'abord, pour quelles raisons les patriarches sont repoussés? Et puis, deuxièmement, pourquoi, ce qui est un peu plus difficile du point de vue de la méthode, comment se fait-il que la Gemara prenne l'initiative, enfin prenne le droit d'être un avis différent des patriarches eux-mêmes? Je vous explique brièvement cette deuxième question qui est un peu plus difficile que la première. C'est que, après les patriarches, il y a les prophètes, du point de vue de l'envergure d'identité. Après les prophètes, il y a qui? Les. Il y a les Avot, ensuite les Nevi'im, ensuite. Anshei Knesset HaGedola, oui, c'est les derniers prophètes, et les Skenim, les Skenim, les derniers des Skenim, après les Tanaïm. Et après les Tanaïm, les Amoraïm. Et voilà que vous êtes arrivés tous à ce niveau-là. Et voilà que les Amoraïm se permettent de dire des Avot, vous êtes trompés dans la Halakha. Okay. Vous voyez l'étonnement. Bon, on verra ça tout à l'heure. Alors, premièrement, essayons de comprendre qu'est-ce que craignaient les Avot. Non, puisque c'est leur descendance, Israël. Hein? Pardon? Ben oui, très bien, c'est ça. Ce dont ils avaient peur, c'est très clair, tous les éléments du problème. Ce dont ils avaient peur, c'est qu'Amalek naisse en Israël. C'est un des éléments du problème. Enfin, ce n'est pas le sujet qu'on étudie maintenant. C'est un élément du problème. Et il naît d'où? Il naît... je vais vous faire une analyse très simple au niveau de la psychologie. Okay? Si vous avez une tendance qui est refoulée, elle devient, par contre-coup, dévastatrice. Okay? C'est ça, Amalek. Oui, on a refoulé Amalek. On a refoulé Timna et il qu'est-ce qu'il revient? C'est Amalek. Alors on pourrait croire que c'est là-dessus que se base la Gemara pour dire mais ils n'auraient pas dû faire ça. Parce que s'ils ne l'avaient pas repoussé, Amalek ne serait pas né. Okay? En réalité, ce n'est pas si simple que ça. Leur inquiétude, c'était que Amalek risque de naître, en Israël même, c'est-à-dire une identité mixte entre les Cananéens et l'identité des Avot. C'est-à-dire, d'une certaine manière, le risque, disons, de l'apparition de cette identité mixte, on le voit se préparer chez Esav. Et il y a d'ailleurs, d'autre part, ça c'est le deuxième point qu'on verra, une collaboration avec Ishmaël dans l'histoire. Et alors, pour le premier point, je pense que c'est très clair. Le motif des Avot, c'était d'éviter que Amalek ne naisse en Israël. Et ça vient à la racine de ce que cette réclamation de l'identité Israël est à ce niveau, à condition d'être la reine. C'est-à-dire que ce soit mon identité qui soit la matrice de ce que toi, Abraham, Isaac ou Jacob représentent.
Et donc c'était déjà cette identité. Enfin, Timna a déjà une identité, quelque chose dans son identité qui est incompatible avec.
Nahon. Mais nous allons le voir plus dans la deuxième question, de façon plus simple dans la deuxième question. Qu'est-ce que je peux donner? Ma? Non, j'ai. Ma? De la même manière que il naît dans un mixte de l'identité qui vient d'Abraham à travers Esav et de l'identité des Chorites. Et ce qui se dévoile dans l'histoire, que c'est cette manière d'être le rival d'Israël n'est pas n'importe laquelle, ce que nous avons vu déjà un peu hier à l'Onek Shabbat. C'est celle qui a pour prétention de remplacer Israël radicalement. Vous voyez, tout vient à la racine de ce que nous avons établi tout à l'heure, que la Gemara dit. Vous voyez, l'analyse est très fine, elle va au fond des choses. Elle voulait être Israël, mais comment ? La reine. Ça veut dire faire que son identité donne le contenu de l'identité Israël. La réponse des Avot est très claire. Elle est une réponse nationaliste. Non, Israël sort de Sarah. Ma nation, pas la tienne. Israël sort de Rivka. Israël sort de Léa, de Rachel. Et pas de Tibnar ou d'une quelconque princesse qui désirait être Israël. Et à la racine, il y a dans ce vouloir être Israël quelque chose d'énormément positif. Mais voilà, il y a quelque chose qui fausse tout. Mais à condition que ce soit ma manière d'être Israël. Et c'est là que le conflit. On arrivera tout à l'heure à l'élucidation par un certain nombre d'exemples. Mais vous voyez que, très grosso modo, déjà, vous pouvez le voir, que c'est à un certain moment la prétention de Rome d'être Israël à sa manière. Qu'est-ce que le peuple juif répond ? Non, Israël à ma manière. C'est ce dialogue entre Abraham et Timna. Vous suivez ? Vous avez bien compris cela. Et quand je dis à ma manière, quel est le facteur de différence ? Il n'est pas tellement théologique d'abord, il est d'abord national. Quand un Romain dit qu'il est Israël et qu'un Judéen dit qu'il est Israël, lequel des deux est Israël ? Et où est la différence ? Elle est du point de vue de la matrice nationale, de la société, pas des idées. Et la preuve que c'est le facteur le plus important, c'est que quand un Romain lit le Midrash, il lui en sort un mythe. Alors que quand un Judéen lit la Bible, il en sort le judaïsme. Enfin, vous comprenez la différence. Est-ce que c'est clair, ça ? On a déjà touché à ces points-là.
Est-ce que si Timna n'avait pas épousé un des avots, il n'aurait pas eu un petit peu de
C'est ce qu'on pensait les avots. C'est-à-dire, mais j'arrive tout de suite à la deuxième question. On va attendre un petit peu que béni soit là. Il est bien évident que les avots ont fait une conception de cette halakha différente des Amoraïm. Alors j'essaie d'abord de vous plaider leur dossier. Qu'est-ce qu'ils craignaient ? Qu'Amalek naisse en Israël même. Et là, il n'y a pas de tikkun, il n'y a pas de takana. Okay ? Parce que ce serait un Israël d'une identité étrangère. Okay ? Une minute. Ça voudrait dire que les valeurs hébraïques représentées par les Avot, et ils n'ont eu confiance qu'en leur femme, c'est-à-dire leur femme qui était leur sœur. Au niveau de Sarah, Abraham, et vous rappelez ils ne pouvaient pas confier à une autre matrice d'être la matrice des engendrements d'Israël. Et ça ne veut pas dire que si une princesse d'un autre peuple demande d'entrer en Israël, elle n'aura pas cette prérogative, elle l'aura, mais à condition qu'elle vienne s'insérer dans l'identité d'Israël qui commence à Sarah, à Rivka, à Léa, à Rachel, et pas du tout instaurer son identité comme étant la matrice d'Israël. Et on arrivera tout à l'heure à l'histoire de Ruth. Ruth est aussi une fille de Moab. Hein? Ruth, je vous ai parlé déjà de ça à propos de Lot. Hein? Ruth est une fille de Moab, mais quand elle demande à entrer en Israël en disant « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu », elle rentre en Israël et elle devient l'ancêtre du roi David. Okay. Par conséquent, c'est pas à ce niveau-là. On verra le texte tout à l'heure dans Ruth même. Et lorsque les anciens du pays, lorsque la famille de Ruth revient de l'exil de Moab, et qu'on apprend que la belle-fille de Naomi, regardez les mêmes lettres de Timna, okay, mais dans un autre Naomi, que la belle-fille de Naomi attend un enfant, elle est bénie par une bénédiction très précise. Okay, que tu sois comme Léa et Rachel qui ont fondé la maison d'Israël. Okay. Tamar et Léa et Rachel. On verra ça tout à l'heure dans le texte. Mais vous voyez quelle est la raison du refus des Avot. C'est-à-dire, il y a le risque que Amalek naisse en Israël. D'où cela vient ? De la prétention qui s'attache à cette exigence d'identité, à condition que je sois la reine, à condition que mon malchut soit le malchut d'Israël. Vous suivez ? Bon, avant d'arriver un peu, je crois que c'est important qu'on l'élucide de cette manière, à la prétention de l'identité dite palestinienne aujourd'hui vis-à-vis d'Israël, mais comprenez que nous avons, avec le christianisme, précisément un exemple historique qui a duré 2000 ans de la même nature. C'est une le, si vous voulez, l'identité romaine, la timna romaine, qui veut être Israël. Oui, mais à quelles conditions ? Que ce soit ma royauté qui soit la royauté d'Israël, pas celle de la famille d'Abraham. Oui ? Très bien. Et puis, ça se relie au premier élément. Attends, je voudrais parler d'abord. Oui. T'écoute.
D'un côté, vous apportez un élément de réponse, c'est-à-dire, je préfère être une servante dans ce peuple qui est Israël plutôt qu'une reine chez les Horites. Et... Comme ça, je comprends pas. C'est donc, si une servante dans ce peuple, c'est donc Amalek, les fils de ce peuple.
Non, de Esav. Quand elle dit de ce peuple, elle veut dire de ce peuple, de cette nation, Abraham, Isaac, Jacob, les Hébreux. Okay. Mais finalement, et il en fait partie par son origine, par sa, comment dire, par son identité d'origine. Il se considère toujours comme en faisant partie. Et même, il considère que jusqu'à la fin des temps, il a, lui, le droit à l'héritage que Jacob reçoit, en fait, historiquement. Voilà, il y a deux éléments dans l'attitude de Timna. Un élément positif, et qui se retrouve jusque-là. L'exigence de cette identité Israël. Je peux tout simplement l'éclairer d'abord par deux remarques. D'abord, le christianisme romain, comprenez que cette exigence d'être Israël est totale chez les chrétiens. Ils savent très bien qu'ils sont Rome et pas Jérusalem. Et pourtant, c'est avec une ferveur de leur part totale, considérable, que lorsqu'ils adorent le Dieu d'Israël, qu'ils se relient au Dieu d'Israël, ils croient qu'ils sont Israël. Ça, c'est absolument positif. Et vous trouverez, dans ce qui commence à être un petit peu une espèce de teshuva des chrétiens, de certains chrétiens vis-à-vis de ce qu'ils ont fait de l'histoire juive, un petit peu cet aveu d'humilité qu'ils sont finalement un Israël adopté. Un Israël, il y a un texte dans Saint Paul qui parle de l'olivier sauvage greffé sur l'olivier franc. Je ne sais pas si vous avez lu ces textes, mais enfin, vous les lirez peut-être un jour. Et ils le disent en tout cas avec les paroles, je ne sais pas si profondément c'est déjà arrivé là, mais enfin qu'ils étaient un élément étranger à l'identité Israël, mais greffé, que l'Israël originel, c'est quand même les Juifs. Bon. Mais il y a donc là cet élément absolument indéniable, que finalement, elle dira, je préfère être servante dans cette... Mais il y a le deuxième élément, c'est que cette exigence d'être Israël à condition d'être la reine, même s'il est refoulé, va finalement ressortir de façon dévastatrice avec la prétention à Amalek. C'est pourquoi je vous ai donné l'analyse du mécanisme psychologique, je crois qu'il est le plus simple à comprendre dans les contenus de civilisation contemporaine, puisqu'on vient de le découvrir, c'est suffisamment frais pour être compris. C'est l'origine d'un complexe. Un complexe, c'est une tendance qui aurait pu être légitime mais qui a été refoulée, et parce qu'elle a été refoulée, elle ressurgit de façon dévastatrice comme complexe. Vous savez, vous comprenez de quoi il s'agit. Bon. Mais on n'a pas fini, parce qu'on va arriver à la deuxième question. Les Amoraïm ont dit qu'ils auraient dû l'accepter. Bien. Alors, je voudrais terminer sur la première analyse en vous donnant ces deux exemples. C'est avec une entièreté totale que le christianisme a réclamé cette identité Israël. Et c'est avec une entièreté totale que les Palestiniens aujourd'hui réclament l'identité Israël. Si vous entendez bien ce qu'il y a dans leur discours, eh bien, ils disent en clair, c'est nous le véritable Israël, c'est-à-dire le peuple de cette terre. Et en se réclamant de toutes les dimensions d'identité que je vous décrirai tout à l'heure, dans tous les niveaux. Il y a une sorte d'anti-Israël qui apparaît, mais avec la prétention d'être Israël. Vous voyez que ce n'est pas n'importe quelle rivalité. C'est la rivalité qui a pour objet l'annulation d'Israël et se mettre à sa place. Bon, alors j'arrive à la deuxième analyse, et ensuite, quand même, vous reprendrez dans le livre de Ruth quelques versets pour que vous compreniez la différence d'essence qu'il y a entre Timnar et Ruth. Quand Ruth vient, on lui fait une fête. Quand Timnar vient, on se méfie. Parce que de Ruth peut sortir David, mais de Timnar peut sortir Amalek. Vous voyez le problème. C'est parce que Ruth a eu, si vous voulez, l'humilité de dire « Je serai une parmi ton peuple » qu'elle a eu le privilège d'être l'ancêtre de David. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va le voir tout à l'heure un peu plus en détail. Mais Timnar vient avec cette revendication que je vous ai peut-être formulée une fois de cette manière. « Ton Dieu, mais pas toi. Ton livre, mais pas toi. Ta terre, mais pas toi. Ta ville, mais pas toi. Toi, c'est moi. » Oui, c'est ça, Timnar. C'est clair? Et dans ce « toi, c'est moi », il y a tout cet amour de vouloir être la femme d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, mais à une condition, d'être la reine, d'être la légitime, c'est-à-dire la matrice d'engendrement de la société. C'est une rivalité au niveau national qui joue là. Et l'exigence d'identité, elle est au niveau positif, je veux dire, elle est au niveau spirituel, mais la rivalité est au niveau national. Bon, et il suffit, je pense, de penser à cela. Le caractère grotesque d'un Romain se prétendant Israël. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est deux éléments contradictoires, mais tous les deux sont de façon totale. Totalement Romain, totalement Israël. C'est ça, Amalek. Enfin, là, il y a le germe de Amalek.
C'est pas si positif que ça, puisque de substituer l'identité de l'autre, de nier l'autre pour prendre sa place.
C'est l'élément négatif qui est contenu dans son attitude positive. C'est ton identité que je veux, moi, mais c'est moi qui la veux. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Étant donné que les avots ont diagnostiqué ce qu'elles voulaient, ils n'ont pas du tout accepté. Mais Baruch. Alors elle s'est dit, bon, eh bien, il y a d'autres branches. Je préfère encore être concubine d'une autre branche, au moins être à l'ombre de cette identité-là, plutôt que d'être Gvira, c'est-à-dire la princesse dans un autre peuple. Ce que j'essaye de vous dire, cet enseignement de la Gemara nous serait absolument hermétique à identifier si nous n'avions pas dans l'histoire ces exemples-là. Effectivement, par exemple, je crois à Rome, c'est évident, puis ça sort de Esav. Okay. Et en particulier de notre temps, ce qui est le problème le plus grave, l'entité politique palestinienne. Okay.
Comment avoir l'Amalek et pas l'identité juive?
Pardon?
Comment avoir l'identité Amalek avec Ina et pas l'identité Ismaël avec...
Très bien, avec Agar. Okay. Mais ça, c'est une histoire qui s'est passée avant, et on l'a étudiée. Est-ce qu'on n'a pas étudié cela? Pas encore? Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas encore étudié. Oh, vous avez raison. Eh bien, je vais répondre tout à l'heure. Hein. Tu me rappelles, je vais finir avec Timnar, puis on reviendra un peu en arrière. Voilà, la deuxième question. Maintenant, et puis ça éclairera aussi un peu la première. Mais je pense que vous avez suffisamment d'éléments déjà. La raison des patriarches, c'est qu'ils craignaient ce phénomène. Que l'identité Israël s'instaure à partir de la matrice horite, alors qu'il faut qu'elle s'instaure à partir de la matrice ivrite. Okay. Vous voyez, la position d'Abraham, c'est de préférer Sarah à Timnar. Celle de Isaac, c'est de préférer Rivka à Timnar, etc. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que Israël est d'identité hébraïque. C'est ça qui est mis en question par Timnar. Lorsqu'elle dit Israël, mais d'identité chorite, alors elle est repoussée. Et on va payer cher ce repoussement, enfin, ce refus, puisque, en fin de compte, il y a le risque qu'il en sorte Amalek, et Amalek en est sorti. Alors, retenez simplement l'argument que j'ai mis en forme, et là, bien sûr, il y a derrière l'analyse d'énormément de commentateurs à travers les siècles, et c'est ceci. C'est que de la part des patriarches, c'est que il y a le danger que Amalek naisse en Israël. Alors ceci dit, comment est-il possible que les Amoraïm contestent cette décision des patriarches? Enfin, pour mettre ça en forme purement de halakha, c'est comme si les Amoraïm contestaient la halakha des Avot. Et voilà leur argument. Nous avons un principe dans la halakha. Mitor shelo lishma, balishma. Ça veut dire, quelqu'un peut avoir une conduite intéressée, mais en fin de compte, c'est le commencement de la vertu, même si c'est intéressé, et qu'il arrivera à un stade où, à force d'avoir agi même de façon intéressée, il agira de façon désintéressée. Et donc, la halakha établit qu'on accepte une vertu intéressée dans l'espoir qu'elle devienne un jour désintéressée. Mitor chez l'olishma, ba lishma. À force du dedans de l'olishma, pas désintéressé, c'est-à-dire intéressé, il arrivera à avoir la même conduite, mais désintéressé. Il ou elle, peu importe. Alors, c'est ce principe que les Amoraïm opposent aux Avot. Est-ce que les Avot ne comprennent pas ce principe-là? Comme ils torchent chez l'Olishma, Balishma. Okay. Alors, répondez. Pourquoi les Avot, malgré cela, ont refusé, alors que les Amoraïm pensent qu'il faut accepter? Où est vraiment la controverse? Et vous avez les éléments qu'il faut pour répondre. Je vous ai indiqué cela autrement au début du cours aujourd'hui. La réponse est très simple. Bon, dis ça un peu autrement. Non, donner sa chance à Timna. Mais la réponse est très simple. Que, d'après vous, comment est la halakha aujourd'hui? Comme les Avot ou comme les Amoraïm? Ah, attendez. Attendez. Donc elle dit comme les Avot. Pourquoi? En réalité, on lui met des obstacles jusqu'à ce que la motivation change. Et lorsqu'on est sûr que la motivation a changé, on l'accepte. C'est pourquoi je vais d'abord répondre à ta thèse. Toi, tu es du temps des patriarches. Et pour vous donner même un exemple, au niveau purement juridique, hein, et ça m'est arrivé souvent que un couple vient et me dit bon, voilà, moi je suis juif, mais finalement elle n'est pas juive. Donc, alors, et on voudrait la convertir pour se marier. Alors en général, je réponds, je vous schématise un peu, je réponds écoutez, mariez-vous d'abord civilement, on verra après. Et je vais vous dire pourquoi, parce que s'ils sont déjà mariés, même civilement, la clause intéressée a disparu. Parce qu'après, c'est plus pour se marier qu'elle veut se convertir. Je suis en train de vous donner des conseils dangereux. Okay? Mais en toute... Non, la halakha est comme ça. En toute bonne foi, si vraiment ce qui faisait que cette conversion était désintéressée, était intéressée, a disparu... Ça veut dire, si une fois mariée, elle veut quand même se convertir, c'est que peut-être c'est au judaïsme qu'elle veut se convertir maintenant. Elle est déjà mariée avec son juif. Vous avez compris ce que je veux dire? Si mariée avec son juif, elle veut encore être juive, c'est qu'il y a quelque chose. Et en général, on déconseille. Parce que si, par exemple, une femme goy a voulu devenir juive, pas parce qu'elle veut se marier avec un juif, elle, pour le judaïsme, c'est difficile, on met des obstacles. Parce que changer d'identité, c'est pas rien. Si elle est née là où elle est née, elle prend la décision de changer son goral, de changer son projet d'identité, c'est pas rien. Il faut que le tribunal rabbinique soit sûr que ça peut être positif, parce que sinon ça peut être dévastateur. Pour une identité traduite, une identité falsifiée, c'est très dévastateur. Et après, des années après, il ressort des troubles considérables. Parce que, une minute, on ne viole pas ses racines. Or, n'importe quel homme, n'importe quelle femme, restant lui-même, peut avoir son rôle à Maba. Il suffit d'accepter la loi morale. Et ce n'est pas nécessaire d'être juif. Vous comprenez à quel niveau nous nous trouvons. Okay? Mais si vraiment il y a, bon, que c'est une neshama juive qui est née dans un corps goy, on s'en aperçoit, finalement. Mais d'abord, il faut mettre à l'épreuve. Vous comprenez? Et je vous parle pas seulement théoriquement au nom de la halakha elle-même, mais d'une expérience de 40 ans que j'ai de ce problème. C'est très délicat de changer d'identité. Et par conséquent, il est normal qu'on mette des obstacles. Bon, maintenant, ceci dit, je reprends le cas en vue de mariage. Alors après, elle s'est mariée civilement. Et puis ils viennent. Eh bien, ça y est, on s'est mariés. Faites attention, hein, n'expliquez pas le dessous des cartes aux gens qui vous en parlent. Alors on lui dit, bon, mais est-ce que vous avez des enfants ? Ah, pas encore. Eh bien, ayez des enfants, on verra après. Pourquoi ? Parce qu'on se marie pour avoir des enfants. Alors, et à partir du moment où il y a des enfants, pour le tribunal rabbinique, c'est plus facile. Et alors, il suffit de vérifier si ces enfants pourront avoir une éducation juive, bien que la mère était d'origine goy, et on régularise. Mais parce que l'obstacle, c'est pas un obstacle formel, mais l'obstacle de fond qui s'exprimait dans cette forme, l'olishma, a disparu légalement. Et si l'intention de se convertir reste, c'est qu'elle était peut-être sincère. Vous voyez, c'est clair le problème. Oui. Attendez, une minute. Une minute. Puisqu'on parle déjà de cela, je voudrais être un peu plus complet. C'est très différent lorsque le père est goy et la mère est juive. Parce que lorsque le père est goy et la mère est juive, dans tous les cas, l'enfant est juif. Vous comprenez le... Donc, l'attitude du tribunal rabbinique n'est pas la même dans ce cas-là et dans le cas où la mère est goya. Vous avez compris le problème. Alors, on va revenir à notre problème. La question que je vous ai posée, oui, une minute, c'est la halakha aujourd'hui, elle est comment ? Elle est comme les Amoraïm, c'est-à-dire quoi ? Ne croyez pas qu'on l'accepte tout de suite. Il y a une procédure d'obstacle dont vous n'avez aucune idée, sauf quand il y a un peu de protectia. Okay ? Mais, et c'est normal. Et c'est normal d'abord pour une question de fond. Voilà comment est la procédure normale. Tout ce qu'on réclame du candidat, la candidate, peu importe, à la conversion, c'est d'être sûr qu'elle n'est plus idolâtre, qu'il ou elle n'est plus idolâtre. C'est-à-dire, en particulier dans le monde occidental, dans le monde chrétien, le problème de la divinité de Jésus. Bon, parce qu'en général, ce sont des gens qui ont passé au catéchisme, qui sont de cette culture-là. D'être sûr qu'il n'y a pas d'idolâtrie, il n'y a plus d'idolâtrie. Donc, et maintenant, ceci dit, et les déclarations, comment dire, sont enregistrées au tribunal rabbinique. Il y a un protocole de tout ce qui se dit. Ce qui fait que si après, la goya en question, 10 ans après, elle veut amener ses enfants juifs, israéliens, disons, puisque nous sommes en Israël, au catéchisme, alors on fait un procès. Et tu as dit que tu ne croyais plus à ces choses-là. Et on fait un procès, on annule la conversion, la naturalisation, il y a expulsion, etc. Donc les choses sont sérieuses. Mais ça arrive. Ça arrive que les enfants sont juifs, puisqu'elle était convertie. C'est-à-dire, ça arrive qu'une goya a dit qu'elle n'était plus idolâtre, qu'elle voulait se marier avec un juif, elle a des enfants, 15 ans après, on s'aperçoit qu'elle les amène à l'église. Bon, alors, grâce à Dieu, on a un État, et donc on fait jouer les lois. Et c'est des problèmes graves. Donc. Maintenant, ceci dit, dans tous les cas, je dis, on met des obstacles, pour la raison de fond, parce qu'il faut être sûr qu'il y a vraiment volonté de changer d'identité, pas seulement velléité. Est-ce que c'est clair ? Et même si c'est pour un juif, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si une goya aime un juif, eh bien c'est un juif qu'elle aime, c'est pas n'importe qui d'autre. Ça veut dire que derrière lui, c'est le peuple juif qu'elle aime. Vous comprenez le problème. Bon, je sais que les maris juifs sont très prisés sur le marché goy. Ça, c'est un problème en soi. Non, les goyotes savent ça, que les maris juifs, il n'y a pas mieux que ça. Bon, c'est comme ça. Mais c'est connu des psychologues et des sociologues. Et c'est pourquoi il y a tellement de filles juives qui ne se marient pas, parce qu'il y a tellement de maris juifs achetés au marché. Et alors, donc, une minute, je vais terminer. D'ailleurs, il y a d'autres qui ont une question avant toi. Ça veut dire qu'en fin de compte, même cette clause, c'est pour me marier. C'est pas un obstacle, forcément. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Comme quand Ruth, elle a suivi Naomi, c'était pour Naomi au départ. Mais en fait, c'était pour le peuple juif.
Non. Non, là c'est évident. Non, là, c'est évident. Elle avait perdu son mari. Par conséquent, si c'était pour suivre Naomi, c'était vraiment pour suivre le peuple. C'était pas l'olishma. Dès que elle a accepté, Naomi lui a dit retourne avec ta belle-sœur. Hein? Gali, je veux dire, l'attitude du tribunal, c'est pas de poser des questions théologiques. Qu'est-ce qui t'attire dans le judaïsme? C'est, est-ce que tu es sûr que tu vas accepter l'histoire des juifs? Et normalement, il dit, mais tu es fou, tu connais qu'est-ce que l'histoire des juifs. Et tu demandes ça. Alors, on le dissuade. Et en principe, selon la halakha, il faut 3 ans de refus. Et après, si ça s'accroche quand même, alors on cherche à voir ce qu'il y a derrière. Aujourd'hui, en Israël, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'il suffit qu'un goy dise « je veux être israélien », c'est clair. C'est clair. Et il n'y a pas à chercher midi à 14h. Il sait qu'est-ce que c'est que cette histoire. Vous comprenez le problème. Et d'ailleurs, là, il y a des textes où c'est formulé comme ça. Quand un goy demande la conversion au judaïsme, ou bien c'est qu'il est fou, ou bien c'est que c'est un grand talmid chacham. Et c'est ça qu'il faut diagnostiquer. Vous comprenez? Est-ce que c'est clair, le problème? Main? Non, c'est l'un ou l'autre. D'après la halakha, un guer, on doit l'appeler rabbi. Parce que si s'est converti au judaïsme, eh bien, c'est qu'il a en lui la Torah inconsciemment. Okay. Bon, il faut des années et des années pour qu'il apprenne sa propre Torah, pourquoi il est devenu juif, mais ça veut dire que c'est un talmid chacham. Ou alors c'est qu'il est fou. Bon, il est fou peut-être d'une juive, j'en sais rien. Mais... Non, ça n'existe pas. La conversion au judaïsme, c'est la conversion à la nation juive. Et, comprenez bien une chose. Le rabbin, ça le fait rigoler au Beit Din, lorsqu'un goy candidat au judaïsme dit « Je sais que vous avez la vérité théologique. Okay. » Comment tu sais? Où tu as appris? De quoi il s'agit? Et, non, ce qu'on veut diagnostiquer, c'est s'il y a acceptation d'entrer dans l'histoire juive. Alors là, ça commence à devenir sérieux et on lui apprend. Et qu'est-ce qu'il sait la théologie des juifs? Mais c'est second. Pas secondaire, mais c'est second. Est-ce que c'est clair le problème? Alors c'est pourquoi je vous dis, même lorsque c'est une conversion en vue d'un mariage avec un juif, pas avec une juive, c'est différent, okay, mais avec un juif, eh bien, en principe, c'est la halakha orthodoxe. C'est pas une raison suffisante pour refuser a priori. On met des obstacles jusqu'à ce qu'on soit sûr si derrière le juif, il n'y a pas quand même le peuple juif. Est-ce que c'est clair le problème? Par exemple, Ruth. Et en fin de compte, il s'est dévoilé qu'effectivement, Ruth avait une âme non seulement compatible à Israël, mais capable d'être l'ancêtre du roi David. Mais je reviendrai sur ce problème de Ruth tout à l'heure. Qu'est-ce que tu voulais dire? Comment? Tu n'as pas oublié ta question?
Non. Ah, c'est bien. Alors, pense-le. Qu'est-ce qui me semble avoir vu dans le Shulchan Aruch, que si un gueule, il y avait des relations, par exemple, avec une juive, avant, après sa conversion, il ne pouvait plus l'épouser?
Avant sa conversion, il ne peut plus. Avant sa conversion, pas après
sa conversion. Avant sa conversion, et qu'après il s'est converti, il ne peut plus l'épouser?
Elle, bien sûr. C'est pourquoi je vous ai dit.
Donc il y a un problème là.
Non, il y a un problème, ça veut dire on l'accepte, mais à condition qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre. Qu'il se marie avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je vous ai dit, dans ce cas-là.
Oui, bien sûr. Dans le conseil que vous donnez, quoi? Si les gens se marient civilement, ils vont.
Non, mais tu as inversé. Je t'ai parlé d'un juif avec une.
Ah, oui. C'était bon. Ça va bien être un gueule
avec une. Alors là, oui, effectivement. Non, c'est sûr. Non, là je ne vais pas parler de ce cas-là. On peut pas avoir tout à la fois, mais là. Là, ça va être très clair. Et d'ailleurs, même dans l'autre cas, par Humra, le tribunal rabbinique pose la question. D'accord, on t'accepte pour la Goya qui voulait se marier avec un juif, on t'accepte comme juif, mais à une condition, tu ne maries pas avec lui. Et si elle dit d'accord, elle dit, eh bien, tu peux te marier même avec lui. Mais non, on dit pas. On les convertit. Dès que la mère le décide, parce que le problème, c'est qu'on veut être sûr si les enfants auront une éducation juive. Tant que la mère est goya, on peut pas convertir un enfant, à condition qu'elle s'engage par papier timbré, et parce qu'il faut être timbré, que les enfants iront à Talmud Torah.
Est-ce que ça arrive qu'il y ait aussi le contraire, des âmes de Cohen dans des cas?
Bien sûr. Et c'est un peu ça Amalek en Israël. Quand les parents on fabriquait les corps, pas selon les lois de la Torah, il risque d'y avoir une âme de Goy qui vient.
Hein?
Ben, les conséquences sont graves. Les conséquences, c'est ce qu'on a appelé d'une façon très générale le Erev Rav. Et il y a un Erev Rav en Israël. Il vient de...
Il faut qu'il se convertisse alors au judaïsme ou alors il faut naturellement qu'il...
Ah non, ils sont nés juifs. Seulement, il y a une identité là-dedans qui est un petit peu difficile. Bon. Mais il y a les deux cas. Il y a les deux cas, ok. Il peut y avoir des âmes de Goïm qui sont des âmes de Tzadikim et qui naissent en Israël et ça fait de très bons juifs. Okay? Bon, mais ça, c'est caché. Personne ne sait. Okay? Enfin, vous ne savez pas. Okay? Donc. Et alors, on revient donc au problème. Donc, c'est clair que la Halakha est comme les Amoraïm. Alors, c'est encore une chutzpa encore plus grande. Parce que nous, vis-à-vis des Amoraïm, on est encore les microbes. Okay? Si déjà les Amoraïm sont des microbes vis-à-vis des Avot, alors nous on est des microbes de microbes vis-à-vis des Avot. Comment on peut se permettre de fixer la halakha contre la vie des Avot? Voilà le fond du problème. Ken, qui peut répondre? Attends, tu avais une question, toi, essaye. Tu veux ouvrir un petit peu? Très bien. L'identité Israël n'était pas encore constituée, donc il n'y avait pas de problème a priori, on ne peut pas. À partir du moment où l'identité du peuple est constituée, alors on peut admettre le principe de Mitor Shelo Lishma Balishma. Parce que la société d'Israël est là, juive déjà, hébreu, je veux dire. Okay. Alors, on est dans deux niveaux de halakha très différents. Est-ce que c'est clair?
Comment ça se fait que les Amoraïm, sachant très bien que les
Mais, non, mais c'est ça la réponse. Okay. Ça veut dire que les Amoraïm ont donné la halakha pour eux, pour leur temps. Et puis, c'est ce que nous apprenons de la manière dont ils parlent de la halakha au niveau des Avot. C'est-à-dire que nous avons un grand principe qui a été mis en évidence par un des grands élèves du Gaon de Vilna, le Rav Chaim de Volodjin, qui se relie un peu à ta question. Il y a tout un chapitre dans son livre Nefesh HaChaim qui dit ceci. On pourrait être tenté de faire comme les Avot. Sachez que c'est interdit. Vous voyez le principe. Ça se rattache à ce problème. Par exemple, vous allez lire des histoires dans la Torah sans très bien les comprendre, ce qui se passe entre Yehuda et Tamar, ce qui se passe entre eux. On dit, eh bien, on va faire comme eux. C'est absolument interdit, parce qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est un tout autre niveau d'identité. C'est clair. Par exemple, Jacob a épousé deux sœurs. C'est absolument interdit par la Torah. On va dire, mais on va le faire puisque Jacob va le faire. Pas du tout. Bien. Ça va jusque-là? Bon, alors, vous allez prendre 5 minutes et ramener les Tanakh qu'on va lire quelques versets dans Ruth que vous relirez avec Timon. Qui dit d'autre part et qui a 1000 visages, mais la prétention d'annuler l'identité d'Israël et ce qui est encore, c'est corollaire et plus grave. De se substituer à lui. Et donc la Haggadah que nous avons étudiée aujourd'hui dans la Gemara de Sanhedrin nous montre les choses à la racine. Dès l'origine de cette histoire de constitution d'identité d'Israël, il y a une rivalité particulière qui apparaît sous les traits de Amalek. Dès l'origine, dès la constitution d'Israël, quelque chose est en dehors, mais pas à la manière dont tous ceux qui sont en dehors, mais qui porte en lui la prétention d'être, à sa manière, cet Israël en cours de constitution, et jusqu'à la fin des temps, cette identité Amalek nous accompagne. Et je pense que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous avons en tout cas deux exemples massifs dans l'histoire. Finalement, l'Église chrétienne à partir de Rome, et puis aujourd'hui, le problème des Palestiniens. Bon, maintenant, je n'ai pas le temps de revoir ça en détail. Au cours de mardi, on continuera en reprenant la paracha de Pourim. Bon. Alors, en ce qui concerne Ruth, je vous rappelle brièvement, parce que je ne sais pas si vraiment on l'a étudié assez en détail, mais vous allez me le dire. Oui, je pense que je vous l'ai signalé. Que les choses commencent dans la rivalité d'identité entre Lot et Abraham. Et nous voyons que dans la famille de Lot, se produit une aventure de signification messianique profonde, parallèle à ce qui se passe dans l'histoire d'Abraham, mais dans l'impureté. C'est le fait qu'au moment de la destruction de Sodome et Gomorre, la famille de Lot est sauvée et les filles de Lot agissent comme si elles sont persuadées que le sort de l'humanité dépend de ce qu'elles vont décider. Puisque, d'après les circonstances, l'humanité est perdue. Il ne reste plus personne. Et alors, vous vous rappelez de ce qui est arrivé, c'est que finalement, elles ont de leur père, chacune d'entre elles, un enfant. L'un, c'est Moab, et l'autre, c'est Amon. Vous vous rappelez de ça, on est arrivé jusque-là. Et puis, en fin de compte, il y a là une identité qui est rivale de l'identité d'Israël telle qu'elle commence avec Abraham, mais d'une rivalité extérieure à celle de Ésaü, de Ishmaël ou de Esaü. Vous vous rappelez de cela ? Amon, Moab, et puis à l'intérieur de la famille d'Abraham, apparaît la rivalité Ishmaël et la rivalité Esaü. Et on pourrait se poser la question, mais comment se fait-il que cette histoire d'Israël est si difficile depuis l'origine ? Pourquoi tous ces obstacles ? Pourquoi ces difficultés ? Pourquoi toutes ces rivalités ? La réponse ? Quelle est la réponse ? Oui, depuis l'origine, on se heurte à toutes ces rivalités extérieures.